Chapitre 22. Le sacrifice d'Isaac. Dieu éprouva Abraham. Abraham est ici dans un état moral qui permet que son cœur soit mis à l'épreuve. Au chapitre 20, il a confessé et jugé la réserve qu'il avait longtemps nourrie dans son cœur. Au chapitre 21, il a mis hors de la maison la servante et son fils. Et maintenant, nous le voyons dans l'épreuve sous la main de Dieu lui-même. Il y a divers genres d'épreuves. Celle dont le diable est l'auteur, celle qui vient des circonstances extérieures, et la plus grande de toutes, celle qui vient directement de Dieu. Il place son enfant bien-aimé dans la fournaise pour éprouver la réalité de sa foi. Il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Proverbe 23, verset 26. Non pas « Donne-moi ta tête, ou ton intelligence, ou tes talents, ou ta langue, ou ton argent, mais » Donne-moi ton cœur. » Et c'est ainsi qu'il dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Verset 2. Quelle épreuve pour le cœur d'Abraham! Il peut y avoir beaucoup de vérité sur les lèvres et dans l'intelligence, mais Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Psaume 51, verset 6. En nous éprouvant ainsi, Dieu nous honore hautement. Nous ne lisons nulle part « Dieu éprouva Lot ». C'est Sodome qui éprouva Lot. Il ne parvint jamais assez haut pour pouvoir être éprouvé par la main de l'Éternel. L'état de son âme était trop évident, et la fournaise n'était pas nécessaire pour le mettre au jour. Sodome n'aurait présenté aucune tentation à Abraham. Son entrevue avec le roi de Sodome, au chapitre 14, en est la preuve. Dieu savait bien qu'Abraham l'aimait, mais pour mettre en évidence que son serviteur l'aimait par-dessus tout, il porta la main sur l'objet qui lui était le plus cher. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Oui, Isaac, l'enfant de la promesse, l'objet de l'espérance longtemps différée, l'objet de l'amour du Père, et même celui en qui toutes les familles de la terre devaient être bénies. Il faut que cet Isaac soit offert en holocauste. C'était là assurément mettre la foi à l'épreuve, afin que cette épreuve, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur. 1 Pierre 1, verset 7. Si Abraham ne s'était pas appuyé simplement et de tout son cœur sur l'Éternel, il n'aurait pas pu obéir sans hésiter à un commandement qui le mettait à l'épreuve si profondément. Mais Dieu lui-même était le soutien vivant et permanent de son cœur. C'est pourquoi Abraham lui abandonna tout. L'âme qui a trouvé en Dieu toutes ses sources, psaume 87, verset 7, peut sans hésiter abandonner toutes les citernes humaines. Nous pouvons renoncer à la créature en proportion de la connaissance que nous acquérons du Créateur. Nous n'abandonnons les choses visibles que dans l'énergie de la foi qui saisit les choses invisibles. Quand nous pouvons dire par la foi « Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses », nous pouvons ajouter aussi « C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait transportée de sa place » et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers. Psaume 46, versets 1 et 2. Abraham obéit. Et Abraham se leva de bon matin. Verset 3. Abraham ne tarde pas. Il obéit promptement. Je me suis hâté. Je n'ai point différé de garder tes commandements. Psaume 119, verset 60. Lorsque Dieu a parlé, la foi ne s'arrête pas pour considérer les circonstances ou pour réfléchir au résultat, elle ne regarde qu'à Dieu. C'est ainsi que fit l'apôtre Paul. Quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang. Galates 1, versets 15 et 16. Dès que nous prenons conseil de la chair et du sang, nous portons préjudice à notre témoignage et à notre service, car la chair et le sang ne peuvent pas obéir. Si la parole de Dieu est la source de notre activité, Elle nous donnera de la force et de la fermeté pour agir. Deux choses sont nécessaires pour que nos vies soient actives, conséquentes et fermes. Le Saint-Esprit comme puissance et l'Écriture comme guide. Abraham avait reçu de Dieu la puissance pour agir et de Dieu aussi le commandement d'agir. Son action, si incompréhensible qu'elle puisse paraître, avait explicitement le caractère de l'obéissance, et ceci est très important. On rencontre souvent ce qui ressemble à du dévouement, mais n'est en réalité que l'activité d'une volonté non soumise à la parole de Dieu. Toutes les fois que le dévouement dépasse les limites tracées par Dieu, il est suspect. La fidélité et le vrai dévouement sont toujours fondés sur un principe divin et gouvernés par un principe divin. Sacrifier un fils est un acte de dévouement extraordinaire, mais il faut se souvenir que ce qui donna à cet acte sa valeur, c'est le fait qu'il était fondé sur le commandement de Dieu. Par la foi, Abraham étant éprouvé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. Hébreux 11, verset 17. Abraham se mit en route pour offrir son fils, et il poursuivit son chemin jusqu'à l'endroit que Dieu lui avait assigné. Et Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Et Abraham bâtit là l'autel, et arrangea le bois, et lia Isaac son fils, et le mit sur l'autel sur le bois. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Versets 6 à 10. Il y avait là une œuvre réelle, une œuvre de foi. Non pas une fausse apparence seulement. Abraham ne s'approchait pas de Dieu avec ses lèvres, tandis que son cœur était bien éloigné de lui. Tout était profonde réalité, une de ces réalités que la foi produit et que Dieu se plaît à accepter. La foi ne fait pas parade de dévouement. Elle ne parle jamais de ce qu'elle veut faire, mais elle fait ce qu'elle peut par la force du Seigneur. Or Dieu est glorifié par cette activité de la foi. C'est lui qui en est l'objet, comme lui aussi est la source dont elle émane. De tous les actes de la vie d'Abraham, il n'en est aucun par lequel Dieu soit glorifié davantage que par la scène du mont Morija. Là, Abraham put rendre le témoignage que toutes ses sources étaient en Dieu. Se reposer sur les bénédictions de Dieu est autre chose que se reposer sur Dieu lui-même. Se confier en Dieu, quand on a sous les yeux les canaux par lesquels la bénédiction doit couler, est tout autre chose que de se confier en lui alors que ses canaux sont arrêtés. Abraham démontra l'excellence de sa foi en faisant voir qu'il savait compter sur Dieu et sur sa promesse d'une innombrable postérité, non seulement quand Isaac était devant lui plein de santé et de force, mais encore quand il voyait Isaac comme victime sur l'autel. Admirable confiance. Non pas appuyée en partie sur le Créateur et en partie sur la créature, mais sur Dieu seul. Il estima que Dieu pouvait. Isaac sans Dieu n'était rien. Dieu sans Isaac était tout. Il y a là un principe de la plus haute importance et une pierre de touche pour éprouver le cœur jusqu'au fond. Ma confiance diminue-t-elle quand je vois le canal apparent de mes bénédictions se dessécher? Ou est-ce que je demeure assez près de la source pour qu'il me soit possible de voir, sans être ébranlé, tous les ruisseaux humains tarir? Est-ce que je crois avec assez de simplicité que Dieu suffit à tout? Abraham fut rendu capable de prendre le couteau pour égorger son fils parce qu'il regardait au Dieu de résurrection, ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts. Hébreux 11, versets 17 à 19. Cependant, Dieu ne permit pas qu'Abraham aille jusqu'au bout. Il épargne à ce cœur de père la douleur qu'il ne s'est pas épargnée à lui-même, celle de frapper son fils. Lui, il est allé jusqu'au bout. Que son nom en soit béni. Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Romains 8, verset 32. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. Ésaïe 53, verset 10. Aucune voix ne s'est fait entendre du ciel lorsque, sur le calvaire, le Père offrait son Fils unique. Non, le sacrifice fut parfaitement accompli, et dans cet accomplissement, notre paix éternelle a été scellée. La preuve de la foi. Néanmoins, le dévouement d'Abraham a été entièrement démontré et pleinement accepté. Car maintenant je sais que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 12. Jusqu'alors la preuve n'avait pas été donnée. La foi existait, et Dieu le savait. Mais ici, Dieu fait dépendre la connaissance qu'il a de cette foi de la preuve palpable qu'Abraham en a donnée lui-même sur le mont Morija. La foi se montre toujours par ses œuvres, et la crainte de Dieu par les fruits qui en découlent. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Jacques 2, verset 21. Qui songerait à mettre cette foi en question? Dépouiller Abraham de sa foi, et il apparaît sur le mont Morija comme un meurtrier et un insensé. Tenez compte de sa foi, et il apparaît comme un homme craignant Dieu et obéissant quoi qu'il puisse lui en coûter. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre? Jacques 2, verset 14. Une profession sans fruit ne satisfait ni Dieu ni les hommes. Dieu cherche de la réalité et l'honore partout où il la trouve. Et quant aux hommes, ils ne comprennent que l'expression vivante et intelligible d'une foi qui se montre par des œuvres. Justifié par la foi, justifié par les œuvres. Il ne sera pas superflu de dire ici un mot de l'harmonie admirable qui existe entre l'enseignement de Jacques et celui de Paul sur la justification. Le lecteur qui s'incline devant l'inspiration plénière des Saintes Écritures sait fort bien que ce n'est pas à Jacques ou à Paul, mais à l'Esprit Saint que nous avons affaire dans cette importante question. Le Saint-Esprit s'est servi de chacun de ces hommes comme d'une plume, pour écrire ses pensées, et ainsi il y a la plus parfaite harmonie entre leurs enseignements. L'apôtre Paul nous donne le principe intérieur, Jacques le développement extérieur du principe. Le premier nous occupe de la vie cachée, le second de la vie manifestée. Le premier envisage l'homme en connexion avec Dieu, le second le considère dans ses rapports avec ses semblables. Nous avons besoin de l'un aussi bien que de l'autre. Paul nous enseigne qu'Abraham fut justifié alors qu'il crut Dieu, et Jacques nous apprend qu'Abraham fut justifié alors qu'il offrit son fils Isaac. Le premier nous dit le secret de la position d'Abraham, le second nous montre Abraham publiquement reconnu du ciel et de la terre. Il est bon de comprendre cette différence. Il n'y eut point de voix du ciel lorsque Abraham crut Dieu. Quoique Dieu l'ait vu alors, et l'ait ainsi tenu pour juste. Mais quand il eut offert son fils Isaac sur l'autel, Dieu put lui dire « Maintenant je sais ». Et le monde entier eut la preuve irrécusable du fait qu'Abraham était un homme justifié. Il en sera toujours de même. Là où le principe intérieur existe, là aussi, il y aura l'action extérieure. Et toute la valeur de l'action extérieure découle de son rapport avec le principe intérieur. L'œuvre d'Abraham à Morija tire toute sa valeur du fait qu'elle est la manifestation extérieure de la foi en vertu de laquelle il a déjà été tenu pour juste devant Dieu. Le résultat de l'épreuve. Il est fort intéressant de voir comment, par l'épreuve de sa foi, Abraham est conduit à une connaissance plus profonde du caractère de Dieu. Quand il nous est donné de supporter l'épreuve que Dieu lui-même nous dispense, nous sommes sûrs de faire de nouvelles expériences relativement au caractère de Dieu, et nous sommes amenés ainsi à apprécier la valeur de l'épreuve. Si Abraham n'avait pas étendu sa main pour égorger son fils, jamais il n'aurait connu les richesses du nom qu'il donne ici à Dieu, Jéhovah Jiré, ou l'Éternel y pourvoira. Verset 14. C'est quand nous sommes véritablement mis à l'épreuve que nous découvrons ce que Dieu est. Sans épreuve, nous ne pouvons jamais être que des théoriciens. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous pénétrions dans les réalités d'une communion personnelle avec lui. Avec quelle conviction et quel sentiment différent Abraham ne dut-il pas retourner sur ses pas, de Morija à Beersheba? Combien ses pensées à l'égard de Dieu, à l'égard d'Isaac, à l'égard de toutes choses, devaient être différentes. Nous pouvons dire en vérité, bienheureux est l'homme qui endure la tentation. Jacques 1, verset 12. L'épreuve est un honneur conféré par Dieu lui-même, et il serait difficile de décrire tout le bonheur qui résulte de l'expérience qu'elle produit. C'est quand nous sommes amenés à constater que toute notre sagesse est venue à néant que nous faisons la découverte de ce que Dieu est. Voir psaume 107, verset 27. Que Dieu nous donne d'endurer l'épreuve, afin que son œuvre paraisse et que son nom soit glorifié en nous. Confirmation des promesses. Arrêtons encore notre attention sur le témoignage que Dieu rend à Abraham à la fin de ce chapitre. « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix. » Versets 16 à 18. Ceci correspond d'une manière admirable avec la manière dont le Saint-Esprit rapporte l'œuvre d'Abraham en Hébreux 11 et en Jacques 2. Le grand principe qui ressort de ces témoignages, c'est qu'Abraham démontra qu'il était prêt à tout abandonner, excepté Dieu. La foi peut se passer de tout, excepté de Dieu. Elle a la pleine conscience que Dieu suffit à tout. C'est pourquoi Abraham pouvait apprécier à leur juste valeur ces paroles « J'ai juré par moi-même ». Oui, cette merveilleuse parole « moi-même » est tout pour l'homme de foi. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même. Car les hommes jurent par quelqu'un qui est plus grand qu'eux, et le serment est pour eux un terme à toute dispute, pour rendre ferme ce qui est convenu. Et Dieu, voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, est intervenu par un serment. Hébreux 6, versets 13, 16 et 17. La parole et le serment du Dieu vivant devraient mettre fin à toutes les contestations et à toutes les opérations de la volonté de l'homme et être l'encre de l'âme au milieu de la houle et du tumulte de ce monde orageux. Reconnaissons avec humiliation le peu de puissance que la promesse de Dieu exerce sur nos cœurs. La promesse est là, et nous faisons profession d'y croire. Mais souvent, hélas, elle n'est pas pour nous cette puissante réalité qu'elle devrait être. Aussi, n'en retirons-nous pas cette ferme consolation qu'elle a pour but de communiquer. Combien peu nous sommes prêts à sacrifier notre Isaac dans la puissance de la foi ?